Blanche, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
François Perraudin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes alpiniste, auteur, photographe. Vous nous venez de votre Valais dans le Chablais pour nous parler de ce livre qui paraît en cette fin d'année, La montagne dans le sang, chez Slatkin. Catégorie beau livre, hein, livre de photographie et de texte qui sont tous les deux de vous. Vous m'avez donné rendez-vous au Giette, au Cernier pour être exact, au-dessus des Giettes. C'est pas fréquent ces derniers jours, mais c'est le premier jour de beau temps après cette longue série de pluie et de vent. Est-ce que ce spectacle qu'on voit là, on voit les dents de morcle,
super,
ça vous émeut encore avec toutes les montagnes que vous avez vues?
Là, elles sont superbes, bien plâtrées de neige. Il a dû beaucoup neiger, beaucoup souffler. Et puis les Muvrans derrière, et puis jusqu'au Léman. C'est un beau point de vue ici. J'étais venu à l'occasion d'un projet quand je suis descendu le Valais à pied pour Valais Passion. Et puis c'était pour moi, en passant par Dorena et en arrivant ici par les hauts.
Du glacier du Rhône jusqu'au lac, hein,
du glacier du Rhône jusqu'au Bouvray, ouais. Et c'était pour moi un moyen d'éviter le goulet de Saint-Maurice, les routes et l'autoroute et tout ça. Et c'est vrai que d'ici la vue est superbe.
Bon, je disais, vous les voyez encore ces montagnes, je me doutais bien de la réponse, mais c'est une vie entière dans ces sommets, que ce soit en haut ou à les regarder d'en bas. Pas de lassitude?
Non, pas de lassitude, une évolution dans la manière de fréquenter la montagne. Moi, j'ai appris par le ski. Je l'ai découverte par le ski, puis ensuite je me suis mis un peu plus à l'alpinisme. Et puis maintenant, avec les années qui passent, je fais énormément de photos et de films animaliers. Donc je suis aussi plus en randonnée, c'est pas des hauts sommets. Mais elle est toujours nouvelle, elle se renouvelle sans arrêt. La faune, elle donne vie à la montagne aussi. Donc on s'en lasse pas, c'est une manière d'être.
Bon, c'est une manière d'être, et puis alors c'est exactement ce que vous essayez et vous réussissez à transmettre dans ce livre, La montagne dans le sang. Moi, quand j'ai vu le titre d'abord, je n'avais pas le livre entre les mains, maintenant je l'ai eu, mais je me suis dit, il y a un truc dramatique dans ce sang. J'imaginais une sale histoire, quoi. Alors, et puis après j'ai compris, non, c'était dans les tripes, dans le ventre, c'est dans le sang à ce niveau-là.
Oui, bon, y a, dans le sang, effectivement, pour ne pas dire dans les gènes, parce que soit mon père était avocat, ma mère institutrice, ils n'étaient pas toujours fourrés en montagne. Mais bon, la montagne peut quand même être assimilée au sang, malheureusement pas par les accidents.
Les pertes d'amis, vous y revenez dans ce livre. Vous êtes ingénieur à l'EPFZ, vous avez fait des études en sciences naturelles et puis vous avez choisi la vie d'un guide de montagne. Il y a là un choix de vie qui est pas anodin, quoi. Hein. On fait des études, l'EPFZ a priori ça impose le respect. Hein. Et puis non, on va aller faire le guide. Vous vous souvenez de ce choix?
Il est venu naturellement, donc le choix des sciences naturelles, c'était pour comprendre le milieu dans lequel j'évoluais, en plus précis aussi la glaciologie et puis la sismologie, les tremblements de terre. Et puis après, une fois que le brevet, en parallèlement au brevet, j'ai fait ma patente de guide, ma patente de prof de ski, même entraîneur de ski alpin. Et puis après, j'ai exercé un petit moment à temps partiel dans le domaine de la sismologie au barrage de Tseuzier. Et puis après, l'occasion s'est présentée de voyager. Donc je suis parti un hiver entier en Chine. Et au retour, la question ne se posait même plus. Donc j'ai dit, ok, on reste là-dedans.
Ouais, ouais. Mais il y a un truc, on va revenir sur la Chine, hein, ça c'est un moment intéressant de votre livre. J'ai pas envie d'utiliser le mot renoncement, parce que pour moi justement c'est pas un renoncement, c'est l'inverse. Hein. Mais il y a un truc de je vais faire un métier pour être sûr de gagner ma vie, quoi, et puis je verrai si la passion peut se greffer là-dessus ou si j'ai le moyen de vivre ma passion, c'est ça?
Oui, je me suis pas posé énormément de questions. Chance m'était donnée de faire des études. Après, mon père m'a dit, faudra que tu te débrouilles tout seul financièrement. Et puis, c'était après, en réfléchissant bien, qu'est-ce que je voulais faire, la question s'est plus posée. Donc c'est la chance de passer une vie à faire ce qu'on aime, à pratiquer le milieu qu'on aime, même si à certains moments, c'est peut-être pas pas évident. Quand on arrive vers les 50 ans où le changement de métier, c'est quand même difficile. On voit les copains, un il a pris un magasin de sport, l'autre il est dans une cabane. Et si on choisit de continuer le métier...
Je l'entends, hein, c'est parce que le corps ne suit plus pour les grandes routes, etc. C'est ça, le changement de métier des 50 ans ou des 55 ans ?
Non, c'est un peu des caps, comme ça.
Ouais.
Le corps, il suit dans la mesure où, de toute manière, avec les années, on baisse le niveau de difficulté. Et puis, après, bon, bah, y a l'accident qui vous ramène un peu les pieds sur terre aussi. Mais c'est surtout... c'est un choix. Choisir le métier de guide quand on arrive à 40 ans, c'est aussi se dire que, ben ouais, entre 50 et 60, il faudra encore continuer le métier. Ce qui est quand même moins évident parce qu'on fatigue plus vite.
Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez abordé la montagne par le ski, vous racontez votre premier ski, hein, c'est le tout début du livre, une petite photo d'ailleurs d'enfant des années 60 hein, sur des lattes qui n'ont plus rien, enfin celles d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ces lattes préhistoriques, on va dire presque historiques
oui,
en tout cas.
Oui, oui.
Je dis ça sans, parce que moi j'ai commencé un petit peu après avec les mêmes, hein, 10 ou 15 ans plus tard. Votre lien à la montagne, c'est évidemment que c'est de la performance, c'est de la haute montagne, mais vous ne mettez pas ça en premier. Ni la vitesse, ni la compétition. Il y a,
C'est l'esthétique. C'est l'esthétique du milieu que j'essaie de mettre en valeur, bon, par l'œil du photographe, mais aussi par le texte. C'est une manière de la fréquenter qui n'est pas bousculée, qui n'est pas stressée. Même si j'ai fait du ski alpinisme, il fallait aller vite. Mais maintenant, c'est une manière d'être avec philosophie et lenteur.
Il y a une notion de l'échec qui ne doit pas être considérée comme un échec. Vous racontez que trois fois le Mont Blanc s'est refusé à vous au tout début, les premières fois que vous y êtes allé. L'Everest, vous l'avez chatouillé, mais vous n'êtes pas allé au bout parce que ce n'était pas les conditions. Et on a l'impression que il n'y avait pas de renoncement. Il y avait quelque chose d'assez harmonieux dans votre tête. Et pas seulement maintenant que vous êtes un vieux sage, à l'époque aussi.
Oui, à l'époque aussi. Bon, à 8000 mètres, la sagesse, elle vient toute seule. On m'avait dit à Katmandou, avant de partir en expédition, rappelle-toi que le plus important, c'est de revenir. Et puis le Mont Blanc, bah, là, c'était la persévérance du jeune qui est confronté à du mauvais temps et puis qui dit, bon, bah, on reviendra, la montagne ne change pas. En fin de compte, l'échec, il fait partie intégrale de l'alpinisme. C'est par là qu'on apprend, peut-être beaucoup plus que par des réussites qui s'enchaînent les unes après les autres.
Vous avez toujours une figurine de Gaston Lagaffe dans votre poche quand vous allez en montagne ?
Pas toujours, non. Moi, je l'ai perdue, malheureusement.
Ça, vous le racontez, alors, si vous l'aviez retrouve, avec vous.
Au sommet du Mont Blanc, je l'ai sorti pour lui montrer le paysage. Ouais. Si j'en retrouve une, il faudrait que j'en retrouve. Je ne sais pas si ça existe encore.
Bon, Gaston Lagaffe, c'est le héros hippie de la BD franco-belge. Hein. C'est un type qui s'en fout, qui n'est pas tenté par le capitalisme, par gagner toujours plus, par accumuler. Il y a une identification là avec les choix de vie dont on a parlé tout à l'heure.
Oui, pas jusqu'au point d'être aussi maladroit que lui.
Mais heureusement, sur certaines arêtes.
Voilà, tout à fait. Il y a un peu une identification. J'ai même un client que j'appelle le Gaston Lagaffe des montagnes parce qu'il cumulait les bêtises puis il savait en rire. C'est ça qui est essentiel. C'est de savoir un petit peu se ridiculiser soi-même.
Je le disais, pas de compétition dans votre approche, en tout cas dans ce que vous nous en donnez, hein, avec ces textes qui sont très courts, très ciselés, assez poétiques aussi, qui ne sont pas linéaires, c'est pas vraiment un portrait de vous, mais c'est des moments comme ça que vous partagez, avec une exception pour la compétition, c'est la Patrouille des Glaciers quand même, hein, vous l'avez beaucoup fréquenté comme concurrent, comme photographe ensuite.
Oui, ça a été une évolution que j'ai suivie, je crois, pendant 38 ans, maintenant je ne la suis plus. C'était vraiment, le ski alpinisme a vraiment révolutionné la pratique de la montagne, été comme hiver. Été par ceux qui s'y entraînent et hiver par le ski alpinisme. Au début, on l'a fait nous l'avons fait toujours entre collègues guides. Et la vraie patrouille pour nous, c'était les entraînements. Chaque fois, un des trois faisait découvrir aux autres une région qu'il connaissait bien.
Une route pour s'entraîner, hein.
Voilà, et on a fait des très longs trucs, on était en forme, et puis à la course, on va prendre l'apéro à Verbier, on se disait, sur la place de Zermatt au départ. Maintenant, l'esprit a quand même beaucoup changé, c'est devenu beaucoup plus compétitif, déjà, on a fait 5 fois le grand parcours. Au début, on était dans les bons qui partaient à 1h du matin, et puis à la fin, on était dans les derniers. Mais c'est pas ça qui compte, c'est vraiment l'expérience. L'engouement populaire, il a aussi augmenté. C'est impressionnant quand vous sortez au sommet du couloir de la Rosa Blanche et que vous êtes accueillis par des cloches, par des corps, par des tas de gens. Ça fait chaud au cœur.
Il y a une réflexion philosophique là derrière, parce qu'on sent bien que dans votre idée, la montagne, justement, c'est pas la compétition, c'est un chemin, c'est quelque chose d'assez intérieur finalement. En même temps, votre boulot, c'est d'amener des gens là-haut. Vous dites que le ski alpinisme a popularisé la montagne. Donc il y a de plus en plus de gens qui y vont. Du coup, cette course mythique, elle n'est plus tout à fait la même qu'à ses débuts. L'esprit de compétition, la foule aussi, hein, les équipes sont beaucoup plus nombreuses. Vous vous dites, il y a quelque chose qui a changé et j'ai pris ma part dans ce changement.
Une petite part, je me souviens qu'à un certain moment, nous les guides, surtout dans la région du Val-de-Bagne, nous avions pris l'habitude de cacher nos traces, de faire en sorte que les gens ne voient pas la trace pour pas suivre les itinéraires. Maintenant, je dirais que ce qui a énormément...
Comment on fait ça? On accroche, comme dans les westerns,
On choisit dans le terrain...
on accroche une broussaille.
On choisit de suivre un torrent plutôt que d'aller sur la bosse, par exemple. Mais je dirais que... La montagne, pour moi, ça a toujours été un refuge. Un endroit où je me sentais bien et où j'avais pas envie de reprendre les schémas de notre société. Alors que maintenant, il y a quand même beaucoup de pratiquants qui y trouvent le défi, le chronomètre, que ce soit à vélo, que ce soit à pied, les trails ou à ski, en ski alpinisme. Et je sais pas dans quelle mesure, pour ces gens, la montagne est un refuge ou bien leur corps eux-mêmes. Il s'agit de se mettre au défi et de faire toujours mieux. Avec les années, ça va s'atténuer, en tout cas pour ces gens, mais il y aura toujours des jeunes derrière.
On va se retrouver dans un instant pour continuer, hein. C'est la fin de la première partie, à tout de suite.
Plan large
jusqu'à 13h
entre émotion et évasion. Plan large
sur Radio Chablais,
l'entretien de Florian Barbet.
François Perraudin, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. On parle de ce livre, La montagne dans le sang, édition Slatkin, catégorie beau livre. Toutes les photos sont de vous.
Oui,
là-dedans.
Hein, oui, tout à fait.
Parce que vous êtes devenu après guide, après...
Sauf la première où on me voit sur des skis, là, ça devait être fait par mon père ou ma mère.
Ah oui, la toute première, quand vous étiez tout petit, oui. Photographe, il y a une formation là aussi, ou c'est un petit peu le...
Sur le tas.
Sur le terrain.
Le plus gros de la formation a été le changement de la pellicule au digital. Et là, il a fallu plusieurs mois pour se mettre dans ces machines, quoi, parce qu'il faut apprendre à maîtriser l'ordinateur, qui est un appareil photo et qui est ensuite l'ordinateur pour la post-production.
Oui, alors justement, là, en montagne, le poids est un défi. Alors j'imagine bien que vous ne trimballez pas l'ordinateur, que ça se fait en redescendant, mais l'appareil photo, sans données techniques, mais enfin, vous montez avec quoi?
J'ai toujours des sacs lourds, surtout pour la photo animalière. On a des
téléobjectifs.
500, 800 mm, souvent un trépied et des boîtiers qui sont performants. Donc le sac léger, je ne connais pas trop. Et je dis que si je n'ai pas de sac, je tombe en avant. Donc effectivement, ça c'est une des contraintes de la photo en montagne.
Ces textes, alors je l'ai dit tout à l'heure dans la première partie, ils sont très personnels, vous vous dévoilez, on l'évoquera tout à l'heure. Vous avez toujours écrit un petit peu, philosophé sur la montagne, conjugué le plaisir que vous aviez à y être avec quelque chose à partager?
Au début, on avait commencé par l'arc alpin, on avait fait Nice jusqu'à la frontière de l'Autriche en ski de randonnée. Et là, je prenais quelques petites notes, puis après, je faisais des montages audiovisuels, c'est-à-dire des diapositives qu'on faisait passer en fondu enchaîné avec un commentaire et puis un fond musical de temps à autre. Et puis après en montagne, on a souvent dans les après-midi, des après-midi en cabane, l'occasion de rien faire. Et moi, j'écrivais. sur mon, au début sur du papier, puis après sur les téléphones. Et j'ai toujours aimé un peu écrire. Et puis ça s'est enchaîné naturellement.
Vous avez un petit texte hein, sur les catégories de personnes à la cabane. Hein, quand il y a une après-midi où il faut attendre le lendemain pour partir, il y a les hyperactifs, il y a les contemplatifs.
Il y a ceux qui font qui bossent, la sieste. Et puis il y a d'autres qui... Oui, mais bon, ça me passait bien. C'était aussi un moyen de rester dans le dortoir, un petit peu à l'écart des clients, pour être de nouveau disponible après avec eux.
Ce côté, ben justement, ça c'est intéressant. La montagne est un plaisir solitaire. Souvent, on sent qu'il y a quelque chose de viscéral. C'est dans le son, d'ailleurs, vous le dites dans le titre, hein, entre vous et elle. Les clients, des fois, c'est des importuns. C'est des gens qui vous empêchent de ce plaisir solitaire avec la montagne.
Non, parce qu'on est là pour eux. Donc on calibre un peu les courses en fonction de la clientèle, en fonction du nombre de clients. On doit toujours être à l'écoute de ce qu'ils attendent, s'il y a un problème, et venir à leur aide et tout ça. C'est une dimension supplémentaire qu'on introduit dans le milieu, c'est de prendre soin d'autrui, et tout en restant soi-même, si possible, en bonne santé. Donc c'est pas une contrainte, parce que quand on fait le métier, ça fait partie tellement de la donne que il faut se poser la question avant.
Ouais, bien sûr, il faut le faire bien. J'ai dit qu'on reviendrait sur cette histoire de Chine, hein, mais je veux pas l'oublier. C'est une expérience de votre tout début de carrière et de vie professionnelle. C'est pas le ski alpinisme, c'est pas encore ça. Vous êtes allé entraîner l'équipe olympique de Chine.
L'équipe nationale chinoise, oui. C'était dans un gymnase de sport chinois. Les responsables ont débarqué puis ont dit toi et toi, vous ferez du ski. Donc c'est des gens qui ne faisaient pas de ski, mais très doués sportivement pour apprendre. Et puis
en pleine guerre froide, il fallait être présent aux Jeux Olympiques, il fallait essayer de briller.
C'était le premier match de ping-pong entre les États-Unis et les Chinois. Ouais, c'est cette année-là quand j'ai débarqué. Ouais.
Et l'ouverture de la Chine.
Tout ce que je faisais était filmé parce qu'ils voulaient aussi eux pouvoir former leurs propres entraîneurs. Mais l'expérience était avant tout humaine.
Mais vous aviez quoi ? Vous avez moins de 30 ans là, vous avez 27 ans, je crois, je me souviens dans le texte.
C'était en 85, sauf erreur. 85, j'avais juste 20 ans. Ouais. Mm-hmm. C'est une belle expérience.
75.
J'avais 30.
Ah d'accord, j'avais 85 30,
ouais. Ouais. C'était une belle expérience humaine, pas toujours facile, parce que j'avais un interprète. Mais lui faisait pas de ski. Et le premier jour où on a débarqué, il y avait un espèce de téléski, mais qui s'est avéré impraticable parce que les pylônes étaient mal foutus et tout ça. Donc on faisait tout à pied. Alors quand j'étais en haut, il était au milieu. Quand j'étais en bas, il était en haut. Et donc j'ai dû apprendre à montrer beaucoup plus par le mouvement que par la parole. Et puis petit à petit, avec une des jeunes skieuses, j'ai appris à quelques mots. Et puis j'arrivais à faire des mini séances d'équipe en chinois. Donc l'expérience humaine était exigeante, mais était riche.
Et puis vous aviez demandé, pas comme salaire j'imagine, mais enfin comme compensation de ces longs mois passés là-bas, de pouvoir aller au Tibet, hein, de pouvoir aller tutoyer le toit du monde.
Exactement. Après on m'a dit, vous pouvez aller faire tel 6000 si vous voulez, ou celui-là, ou alors aller au camp de base de l'Everest. La question s'est pas posée longtemps. Et lorsque j'arrive au camp de base, il y a une voix que je reconnais immédiatement, qui est un médecin, Urs Wiegert, qui est un médecin actif dans le sauvetage en Valais, qui était avec une expédition anglaise, et puis ça m'a permis de monter jusqu'à 7000 sur l'arête nord-est, et même d'aller au col nord. Donc 7000, ça a été une belle découverte de cet Himalaya.
Bon, on va en parler puisqu'on y est. L'Everest, aujourd'hui, l'image de l'Everest, c'est des colonnes de touristes, des déchets, des milliardaires qui vont se faire un frisson à 8000 mètres. C'est à l'opposé de tout ce que j'ai lu dans votre livre, évidemment, cette image de la montagne. Comment vous voyez ça ?
C'est impressionnant. Là, maintenant, il y a des gens qui sont capables, en une semaine, grâce à un gaz, le xénon, de quitter leur bureau, d'aller au sommet de l'Everest et de rentrer. C'est vraiment utiliser la montagne comme un stade d'athlétisme. Ne pas pouvoir s'en imprégner, c'est effectivement à l'inverse de ma philosophie. D'ailleurs, je n'aurais pas envie, comme de nombreux alpinistes n'ont pas envie, d'aller se mettre dans ce bazar, même si c'est le plus haut sommet du monde.
Vous n'iriez pas, donc ?
Non, non, non. Puis en plus, maintenant, à 70 ans, j'ai fait une expérience au pic Lénine, il y a 3 ans de cela, à 7100. C'était bon, quoi. Ça suffit. C'est déjà assez dur.
On est déjà dans des problèmes de souffle, à 7000, évidemment.
On est déjà dans des problèmes de souffle, d'acclimatation, et puis on est plus lent, et c'était une très longue arête, comme ça, tout seul. Mais c'était une belle expérience, dans des décors absolument incroyables.
Ça, c'est au Kirghizistan, hein, c'est
au Kirghizistan, ouais,
Kirghizistan,
ouais.
Pardon. Ouais. Kirghizistan, c'est votre dernière expérience de long voyage. Il y en a eu plusieurs qui sont décrites un peu dans ce livre. J'aimerais qu'on termine avec une notion que vous abordez, Franco, c'est les échecs. J'ai parlé du Mont Blanc, ça c'est un peu anecdotique. Il y a aussi la dépression, il y a aussi la perte d'un ami, il y a aussi des renoncements.
Oui, le guide, pour exercer son métier, il doit être bien dans sa peau. Et si on n'est pas bien dans sa peau, on ne peut pas être à disponibilité d'autrui. Et puis bon, ben voilà, j'ai quand même parfois brûlé la chandelle par les deux bouts. Ça conduit à du surmenage. Et à un certain moment, le fusible pétait. Donc il fallait du temps pour récupérer. Après, j'ai appris à insérer des pauses entre les semaines de travail et tout ça. Et tout ça dans un milieu qui est exigeant. Si vous n'êtes pas à votre affaire, par exemple en ski de randonnée, avec le danger d'avalanche, le mauvais temps, ben, ça peut faire des dégâts. Donc oui, ça fait partie. Moi, je dirais que c'est pas un échec. Quand on est plongé dans la dépression, on vous dit, tu verras, quand tu sors, tu verras que c'est une expérience très enrichissante. Mais quand on y est, il faut d'abord en sortir. Donc ça aide peu. Mais effectivement, par après, on apprend à se gérer beaucoup mieux.
Il y a l'accident aussi, ça vous l'évoquez aussi, il y en a eu.
Il y en a eu des mineurs et un peu plus important qui était une erreur de jugement de ma part. Et puis alors là, on est immobilisé pendant un certain temps. On monte en cabane en béquille, mais c'est mécanique. Donc on se remonte gentiment, tandis que le problème psychologique, c'est plus long. Et là, c'était le ressourcement, c'était de nouveau pour moi la montagne en solitaire, la faune, la photo animalière. Et c'est là que petit à petit, j'ai refait surface.
Bon, là, vous avez prononcé les mots faune, flore. C'est évoqué évidemment dans votre livre, même si je trouve que c'est un peu c'est pas central dans votre livre. Le changement climatique, la montagne qui change, son paysage qui change, les tristesses qu'on peut avoir quand on l'a vu autrement avant cela. Il y a de la tristesse aujourd'hui quand vous vous baladez en montagne.
Il y a un peu de désolation quand on constate certains décors, quand on voit certains décors, et puis l'envie de faire passer un message de respect. Uniquement ça. Donc après, dans les actes soi-même, on peut être conséquent et agir pour diminuer son empreinte carbone. J'essaye d'influencer un petit peu le milieu, mais par exemple la pratique du ski héliporté chez nous est tellement une source de revenus économiques que les jeunes ne sont pas du tout critiques à son égard, alors que c'est un peu couper la branche sur laquelle on est assis. Donc oui, il y a quand même une responsabilisation vis-à-vis de ce milieu. Puis le guide, c'est quand même un gars qui montre l'exemple. Donc
c'est toujours cette notion de responsabilité individuelle versus responsabilité collective ou responsabilité du système, hein. C'est vrai que c'est difficile de faire comprendre à la population qu'il y a une responsabilité individuelle quand on a de l'héliski, comme vous venez de le citer, ou qu'on a des tracks qui désossent un glacier à Zermatt pour préparer une piste de ski. Il y a une prise de conscience du pouvoir qui doit se faire avant celle de la population, ou en parallèle en tout cas.
Oui, cet engrenage économique où finalement on en fait une nécessité de continuer à foncer dans le mur, j'ai de la peine à l'assimiler, à le comprendre. Au contraire, je me dis, ralentissons, allons plus lentement. Mais on prêche malheureusement souvent dans le désert, même si toutes les personnes qui vont en montagne, qu'elles soient au chronomètre ou pas, elles vont pour y trouver la solitude, pour y trouver la tranquillité. Mais quelquefois, les coûts sont quand même très élevés.
Vous la fréquentez encore, vous avez dit votre âge tout à l'heure, 70 ans, ou bientôt 70 ans, hein, je crois, et c'est toujours votre univers ?
C'est toujours mon univers, peut-être moins sur les sommets des 4000, mais toujours à ski, beaucoup à ski, dans la moyenne montagne, dans la haute montagne de temps à autre. Ça reste mon univers, mais j'en ai fait une manière de vivre. Donc c'est plus que... Oui, c'est un univers dans lequel on est plongé jusqu'au cou.
Là, vous voyez les premières neiges, on les a décrites au début de la première partie de cette émission. Ça commence à démanger un peu d'aller faire du ski alpinisme.
Ah bah ouais, on va bientôt pouvoir mettre les skis puis aller faire d'abord des petites randos et puis après d'aborder cet hiver, oui toujours ça chatouille.
Bon bah merci en tout cas François Perraudin pour ce moment avec vous. La montagne dans le sang, ça paraît, c'est paru aux éditions Slatkin, catégorie beau livre, les photos sont magnifiques, les textes font réfléchir aussi. Merci à vous.
Merci de l'invitation.